Bonsoir, Laurence.
Bonsoir Jean-Marc.
Merci d'être là. Mais on parle de quoi quand on parle du décalage du désir? Vous arrivez à le définir?
Oui, tout à fait. On parle vraiment de la différence, en fait. On parle de la souffrance autour de la différence. Et je dois dire que je tenais énormément à écrire ce livre parce que je vois de un, trop de couples qui souffrent de cette différence dans le désir, qui peut se décliner sous différentes formes. Hein. Il n'y a pas juste le décalage au niveau de la fréquence, de la quantité, mais il y a toutes sortes de décalages, on peut en parler. Donc je vois beaucoup ces situations-là où le sens donné au décalage est vraiment catastrophique. Voilà, on s'est perdu, on est colocataire, on est incompatible, etc. Et puis de deux, ce que je vois aussi beaucoup, c'est les personnes qui consultent seules parce que dans le couple, elles ont été désignées comme ayant le problème. Soit elles sont trop désirantes, elles sont addictes au sexe, ou alors elles sont trop peu désirantes, elles ont un trouble du désir. Et moi, je tenais vraiment à dire, il faut aller au-delà de cette formulation comme quoi l'une ou l'autre personne aurait un trouble, mais de se dire, bah, finalement, c'est qui souffre? C'est le couple, c'est la relation, c'est face à cette différence. Comment est-ce qu'on va articuler notre relation autour de cette réalité, la réalité des fluctuations du désir au cours d'une vie, hein, parce que c'est vrai, vieillir ensemble, ça veut dire qu'on n'est plus avec la même personne avec laquelle on s'est mis ensemble il y a peut-être 10 ans, 20 ans, 30 ans en arrière. On a évolué. La personne a évolué, la relation a évolué, les besoins ont évolué, et tout est à refaire assez fréquemment quand même. Donc ça, c'est une réalité. Et oui, l'idée est quand même de pouvoir affronter cette réalité en se disant, ça fait partie de la norme, mais on ne va pas non plus mettre ça sous le tapis et se dire, bah, ça va passer. Non, on va regarder ce décalage en face et on va essayer de travailler ensemble en faisant équipe, comme toujours. Hein.
Alors, avant de le faire ensemble dans cette émission un petit peu, juste avant, j'aimerais comprendre, puisque le thème de la semaine, c'est les non-dits ou parfois la parole qui se libère, mais j'aimerais comprendre, vous qui avez des gens qui viennent vers vous pour parler de tout ça, comme psychologue et sexologue, pourquoi on parle si peu ou pas bien ou mal de ce décalage?
Il est très très vulnérable hein, ce sujet. C'est un sujet quand même où on va parler de notre fantasmatique de base, hein, vraiment des questions très très intimes. On va parler de choses très sensibles parce que voilà, elles ont parfois des liens avec des choses interdites, parce que dans notre fantasmatique, c'est pas forcément des choses qu'on aurait envie de vivre sous la couette, mais plutôt dans notre imaginaire. Donc partager ça avec la personne qui nous accompagne, c'est pas toujours facile. Parfois, on a vraiment très très peur de blesser l'autre, parce que de dire maintenant mes envies ont changé, mes besoins ont changé, ça peut être compris comme on a toujours fait faux. L'autre peut se dire, oh mon Dieu, mais voilà ce que je faisais avant, ce que j'ai toujours fait, ça tombait à côté, c'était pas adéquat. Donc il peut y avoir une remise en question qu'on n'a pas envie d'infliger à l'autre. Hein. Donc on peut avoir peur de blesser, on peut avoir peur du conflit, de la tension. On peut aussi se demander, mais finalement, de quoi est-ce qu'on va parler? Est-ce qu'on va parler de statistiques, de fréquences? Mais là, vite, on va tomber dans une impasse parce qu'on n'est de toute façon pas d'accord sur. Souvent, quand je travaille avec les couples, je demande à l'un quelle est la fréquence, à l'autre quelle est la fréquence. Et puis, il y a une personne qui va dire une fois par mois et l'autre qui va dire une fois toutes les semaines. La réalité, elle est quelque part entre deux. Donc, si on parle uniquement de fréquence, on va tomber vite dans une impasse, dans une difficulté de communication. Donc, de quoi est-ce qu'on parle aussi? Donc oui, c'est compliqué. C'est très compliqué.
Dites-moi une chose. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui se cacherait derrière ce décalage du désir qui n'est peut-être pas un problème de désir?
Il y a beaucoup de choses qui peuvent se cacher derrière le problème du désir. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est un problème de désir, hein? De nouveau, la difficulté réside dans la différence entre les deux personnes. Alors, ce qui peut se cacher là derrière, ça peut évidemment être une difficulté relationnelle, hein, une difficulté au niveau de la sécurité émotionnelle. On n'est pas assez en confiance. Ou alors, ça peut être le contraire. On est très en confiance, mais on n'a pas assez de différenciation. C'est-à-dire, on est un peu trop collé, et on n'arrive pas à se voir avec suffisamment de distance pour véritablement se désirer mutuellement. Donc ça peut être une chose. Une fois qu'on a écarté les difficultés conjugales, hein, les difficultés vraiment relationnelles, on peut se poser la question de qu'est-ce qu'on cherche dans la sexualité, et c'est clair qu'il peut y avoir une évolution chez l'un chez l'autre de ce qu'on y cherche. Est-ce qu'on y cherche encore l'orgasme? Est-ce qu'on y cherche la pénétration? Est-ce qu'on y cherche la proximité, la fusion? Est-ce qu'on y cherche à se sentir désirable? Est-ce qu'on cherche à se sentir sensuel? Et les fonctions de la sexualité, évidemment, vont évoluer. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Il peut y avoir aussi des décalages autour de ce qu'on estime qui est la bonne entrée en matière. Est-ce qu'on entre en matière plutôt avec telle personne qui initie ou telle autre personne qui initie? Et comment? Est-ce que c'est plutôt sur un mode romantique ou plutôt génitalisé, comme on dit, et plus sexuel? Il peut y avoir des décalages à ce niveau-là. Il peut y avoir des décalages aussi au niveau de ce qui nous excite. Est-ce que c'est plutôt la lenteur ou la rapidité? Est-ce que c'est plutôt tel geste ou tel autre geste? Il peut y avoir des décalages aussi autour de ce qu'on appelle le protocole sexuel. Beaucoup de couples, après quelques années, ont des habitudes. Et peut-être qu'à un moment donné, l'une ou l'autre personne aurait envie de faire les choses dans un autre ordre ou faire des choses différentes. Mais comment parler de, voilà, j'ai envie de faire les choses autrement, j'ai envie de varier un petit peu, c'est délicat. Donc il peut y avoir des décalages de différents types. Il peut y avoir des décalages aussi tout simplement au niveau de comment émerge le désir. C'est-à-dire, est-ce que le désir, c'est quelque chose qui me tombe dessus un peu magiquement, ou est-ce que le désir, pour moi, c'est quelque chose qui se travaille? On prend rendez-vous, on se caresse, on prend un bon moment et le désir va émerger. Mais si dans mon couple, c'est plutôt le désir spontané qui est valorisé, j'aurais peut-être un petit peu de peine à mettre en valeur un désir qui est plus un désir comme ça qui se travaille, qui se met en place, qui émerge lors d'un moment qui est un petit peu plus élaboré dans le couple. Et là, on dépend vraiment de la bienveillance du couple pour mettre en place ces moments-là. C'est alors, rendez-vous sensuel.
Vous êtes passionnante, vous nous dites beaucoup de choses, Laurence. Je voudrais revenir un tout petit peu sur ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire la difficulté d'en parler, finalement, dans le non-dit cette semaine, évoqué dans les témoignages qu'on a entendus depuis lundi. Ça dépend parfois aussi de l'éducation, de la culture. Alors, je dirais plus d'éducation que de la culture. Est-ce que vous avez constaté aussi, dans vos consultations, qu'il y a des gens, on ne parlait pas de ça et on continue à ne pas en parler?
Bien sûr, on ne parlait pas de ça, en parler c'est dangereux, en parler c'est mal, en parler ça veut dire prendre des risques émotionnels trop importants, en parler c'est potentiellement être jugé par l'autre. On a appris ça dans nos familles d'origine, c'est clair, ça peut être culturel ou ça peut être familial.
Par exemple, ça peut être culturel ou familial ou ça peut être lié au fait qu'il y a beaucoup de non-dits dans une famille.
Voilà. Souvent, les non-dits sont autour de différentes thématiques, la mort, l'argent, la politique, la sexualité ou simplement la vie affective de manière générale. Quand on fait une évaluation sexologique avec une personne, on va regarder les différentes générations qui sont venues avant et on va se rendre compte des fois que les non-dits sont assez généralisés. Parfois pour des bonnes raisons, parce que ben oui, si on parlait de telle ou telle chose, c'était trop risqué, trop dangereux. Donc on a voulu protéger les générations suivantes en n'en parlant pas, parce qu'on ne voulait pas les traumatiser.
Dites-moi une chose, dans les gens qui viennent vous consulter, qui sont vraiment dans la retenue, voire qui ne peuvent pas ou n'arrivent pas à en parler avec leur compagne ou leur compagnon, est-ce qu'il y a des moments où le déclic se fait, où la parole se libère?
Alors, en séance, souvent la parole se libère, parfois après des exercices non-verbaux, où les personnes vont se regarder, où elles vont se toucher la main, où elles vont partager un moment de regard intime, vulnérable, on appelle ça des moments de vulnérabilité, de fragilité. Et après, la parole, effectivement, peut se délier. Parfois, ça peut être des exercices qu'on donne en séance qui peuvent délier la parole. Après, à la maison, les personnes peuvent aussi se donner des outils pour délier la parole. Ça peut être lire un livre, ça peut être jouer un jeu. Il y a quand même pas mal de jeux de société qu'on peut utiliser comme support à la discussion. Ça peut être des articles, ça peut être des livres, des romans, pas seulement des livres d'autodéveloppement, mais des romans, ça peut être une série. J'ai beaucoup de couples qui viennent en consultation après avoir regardé une série, où tout à coup, ah tiens, cette scène-là les a mis en difficulté parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient vraiment une différence de perception sur tel ou tel aspect de la vie intime, de la vie affective ou de la sexualité. Et ça a donné lieu à une discussion qui a un petit peu délié les langues et qui les a amenés en consultation.
Alors, quelques questions précises grâce à notre WhatsApp au 076 318 9649. Quelqu'un demande, la plupart des questions sont autour de comment en parler. Hein, et c'est, je pense, assez simple parce que ça veut dire qu'on est déjà conscient de cette problématique, si c'en est une. Hein. Une première question de quelqu'un qui dit, vous choisiriez quel lieu, vous, Laurence, pour en parler? Est-ce que c'est à la maison? Est-ce que c'est au café? Est-ce que c'est avec un professionnel qui assiste à la discussion?
Évidemment, si on est avec un professionnel, ça veut dire qu'on est en train de donner le message que c'est une thématique importante et que les deux sont d'accord de faire équipe et de donner du temps à cette thématique. Ce qui n'est pas négligeable parce que souvent, l'une ou l'autre personne se sent un peu seule face à cette problématique, a l'impression de porter ou d'être garant de la sexualité. Du coup, aller voir un professionnel ensemble, c'est déjà donner un message assez clair. Maintenant, on ne peut pas tous et toutes se permettre d'aller voir un sexologue, une psychologue, etc. Le café, c'est pas forcément la meilleure idée, quoique j'ai des couples qui me disent si on va au café, on est aussi en train de donner ce message d'intentionnalité, on prend le temps hors de la maison, hors du contexte parental, par exemple, pour aborder cette thématique. Mais comme c'est une thématique qui peut être assez émotionnelle, il y a des personnes qui vont se censurer un petit peu s'ils sont au café ou au resto, parce qu'ils ne vont pas forcément montrer leurs émotions en public. Je dirais que, de toute manière, soigner le cadre est important, indépendamment du lieu. C'est-à-dire, ce qui est plus important, c'est de se dire qu'on se donne un espace-temps qui est vraiment dédié à ça. De toute manière, les enfants sont gardés, ils sont placés, ils ne sont pas là. On a du temps, on a un temps qui est cadré. On ne va pas y passer toute la nuit à discuter. Hein. Si on va en discuter pendant, je ne sais pas, une heure, deux heures, on se met un certain cadre pour ne pas avoir peur non plus que ça s'éternise. On donne aussi l'occasion un petit peu de se préparer. Beaucoup de personnes me disent, la discussion est tombée un petit peu de nulle part, j'ai pas pu me préparer et du coup j'étais bloquée. Donc se dire aussi, ce dont on va parler, avec bienveillance, sans juger, on veut juste aborder nos émotions, nos besoins quant à cette thématique.
Alors, je vais vous interrompre juste parce qu'on arrive bientôt au terme de la demi-heure qui nous est impartie. Juste, vous avez déjà répondu à la deuxième question qui était quand. Maintenant, une des questions essentielles, elle nous est aussi posée par WhatsApp au 076 318 9649, c'est par où commencer ? C'est une excellente... Vous l'évoquez, vous l'abordez dans votre livre, du reste. Vous donnez des exemples, vous dites quelques exemples. Un bisou, un je t'aime, un remerciement, un long regard amoureux, les yeux dans les yeux. Bon, ça, évidemment, ce sont des choses auxquelles on pourrait penser, mais est-ce qu'il y a d'autres façons de commencer à parler de ça ?
Je pense qu'au-delà du petit rituel de « on entre dans le moment avec le bisou ou le hug ou Dieu sait quoi », c'est de dire « j'ai besoin ». Je souffre de, j'ai remarqué que, en parlant vraiment de soi. C'est un peu le béaba, on le sait tous, mais je crois que tous et toutes, on tombe aussi dans le panneau de dire « je trouve que tu », etc. Puis là, on est en train de parler de l'autre et pas de soi.
C'est ça.
Donc vraiment, je souffre parce que je me sens pas désirée, je me sens pas désirable, je me sens en difficulté, je me sens seule, je me sens éloignée de toi. J'ai l'impression de te perdre, j'ai l'impression qu'on ne s'aime pas comme avant, j'ai l'impression qu'on a perdu une dimension qu'on avait dans notre couple avant. Donc des émotions assez vulnérables, la solitude, l'impuissance, la tristesse aussi, toutes ces émotions, finalement on parle des profondeurs de nos émotions plus que de l'autre. Et ça va aider l'autre à ne pas se mettre sur la défensive et vouloir vraiment entrer en dialogue avec nous.
Laurence, merci beaucoup. C'est passionnant. Vous êtes l'auteur de Le désir dans le couple, paru aux éditions La Musardine. Comment gérer le décalage d'envie sexuelle sur la durée? Merci. Vous êtes venu apporter votre éclairage à ce témoignage de Jean-Pierre hier soir, qui a parlé de toute autre chose après. Mais au départ, c'était quand même son point de référence, ce décalage qui existe parfois. Et ça prouve que c'est pas toujours évident, hein, de libérer la parole sur un tabou, sur un non-dit comme celui-ci. C'est pas toujours simple, et peut-être qu'un ou une professionnelle peut aider. En tout cas, vous en avez été la preuve vivante. Merci Laurence, à bientôt.
Un grand merci à vous, à bientôt.
Au revoir.
Au revoir.